Bonjour, vous écoutez Noir Atlantique, un podcast de Fania Noël produit par Kizu Studio. Noir Atlantique est un podcast de discussion communautaire au sens large et global. Je suis en conversation avec des universitaires, artistes, penseurs, militants noirs de par le monde. Et de quoi on parle? De nous, des questions, lutte, production, des mondes noirs. Aujourd'hui, on va parler de musique et plus largement de culture. La musique fait sûrement partie des éléments les plus forts et marqués identitairement des cultures caribéennes et africaines, que ce soit pour célébrer, pleurer, s'encourager, lutter ou juste faire le ménage, il y a toujours une bande-son. Le secteur culturel dans son ensemble n'échappe pas au capitalisme, tant dans la production, la distribution, mais aussi sur les questions de propriété, on l'a vu avec l'actualité de Kanye West. Les mouvements panafricains et indépendantistes ont donné la part belle aux artistes. Mais qu'en est-il pour la révolution panafricaine du 21e siècle, qu'on attend et qu'on espère? Quelle sera sa BO? Pour en parler, je reçois un, ouvrez les guillemets, cogneur de l'invisible, togolais qui se définit comme activiste, rappeur, designer, réalisateur et surtout panafricain. Il est membre de la Ligue panafricaine Umoja. Bonjour Elom, comment ça va?
Bonjour Fania, ça va très bien. Et toi, comment tu vas?
Moi, ça va très bien. À New York, et toi, à Lomé?
Je suis à Lomé, je suis au bord de mer, ça va très bien. Il a plu ce matin, il fait beau.
Ok, je te crois volontiers sur ce point-là. Rentrons dans le vif du sujet. Elom, ton dernier projet, qui est un projet très visuel, tu veux nous inviter à l'intérieur d'un conte. Mais alors, à l'intérieur d'un conte qui s'inscrit dans les traditions orales de conteurs des cultures ouest-africaines, mais africaines en général. Mais c'est quelle histoire tu veux nous raconter? Dans quelle histoire tu veux nous faire entrer?
Bah, le dernier album s'appelle Ameuga. Ameuga, ce n'est pas un mot, c'est une phrase. Ça veut dire l'être humain a plus de valeur que les biens matériels. Et je pense que c'est l'histoire d'une humanité qui se perd et qui a besoin de se recentrer, de remettre l'humain au centre de toutes nos transactions, de toutes nos actions généralement. Donc oui, il s'agit de l'histoire de l'humanité que je raconte à travers un album de 17 titres, mais qui est aussi décliné en clips vidéo, en documentaire et en podcast, dont la série Ubuntu, qui veut dire « Je suis parce que nous sommes en Swahili », que j'ai réalisé pendant la période du Covid-19. Il y a la série des Impossibles imminents, qui sont des documentaires de 13 minutes, un double triptyque. Il y a la dernière trilogie, Le silence est un cri, qui s'est déclinée en un documentaire de 26 minutes, une fiction avec des perruches, des fourmis et un cafard. Et aussi l'histoire de Nupekpe Mapezan, qui est une trilogie dont j'ai réalisé deux chapitres pour le moment, où je raconte l'histoire d'un guerrier qui est décédé au combat mais qui est réincarné en une petite fille. Donc la première vidéo, c'est le titre point d'interrogation, la deuxième c'est le titre Ameuga, et il y a le troisième qui va arriver bientôt qui s'appelle Egungu, justement, qui symbolise les revenants, ceux qui sont entre le mort des vivants et des morts. Donc ça fait beaucoup tout ça. Mais pour moi, ce qui est important pour revenir, c'est remettre l'humain au centre de tout.
D'accord. Bah, en effet, on se demande, tu dors parfois?
je dors beaucoup parce que je pense que c'est là où on rêve. Voilà, je rêve beaucoup en fait. Je sais pas si je dors beaucoup, mais je rêve beaucoup.
Ok. T'es membre d'une organisation politique qui est la Ligue panafricaine Umoja, qui est une organisation panafricaine. Je suis membre aussi. Comment t'articules ça avec ton travail de création? Comment t'articules? Est-ce que dans la Ligue panafricaine, t'es un artiste qui est dans la Ligue ou t'es un militant qui est aussi artiste? Comment t'articules ton investissement en tant que militant dans une organisation où il y a d'autres militants qui sont, certains sont artistes, certains sont pas artistes, certains travaillent dans d'autres choses. Comment tu vois ton engagement?
Bon, moi, je pense que je me définis comme un artiste militant. Plutôt, tu as dit que je suis un activiste, c'est-à-dire un artiste activiste. Je pense que je suis les deux. Mon engagement militant est la prolongation de ce que je peux faire en musique, en fait. Parce que je pense que la musique, c'est essentiel, c'est la BO de la révolution. Mais je ne me vois pas juste comme un artiste qui va au studio, qui fait des concerts. Je me vois aussi comme un artiste qui interagit avec son public, qui essaie d'utiliser ma musique comme un prisme pour parler de panafricanisme. En tant que membre de la Ligue panafricaine ou Moja, je fais partie de la section territoriale locale togolaise, l'association SEMA, où nous organisons chaque dernier dimanche de mois deux activités qui s'alternent. Une activité qui s'appelle la feuille papier, où on présente un livre et une plante, comment à la fois allier notre culture endogène à la culture qu'on peut qualifier d'occidentale, des livres. Et en même temps, il y a l'autre qui s'appelle Ciné-Réflexe, l'autre activité. Ciné-Réflexe, c'est cinéma et réflexion. C'est une projection de films documentaires suivis de discussions, débats. Et le lien entre l'artiste et l'activiste, c'est que je sais que je parle, j'utilise mon audience qui me suit musicalement parler, les drainer vers nos activités. Mais de l'autre côté aussi, je me nourris de toute la réflexion qui naît des échanges, des discussions pour créer ma musique. Je sais que Nina Simone et autres à l'époque, des artistes engagés qui m'ont inspiré, qui continuent de m'inspirer, traîner avec les James Baldwin à l'époque. Quand on parle du festival panafricain d'Alger, où on peut voir Stokely Carmichael, on peut voir Myriam Makeba, on peut voir tout le monde. Je pense que quand on est artiste engagé, on ne peut pas faire l'économie de la réflexion et faire partir d'une organisation panafricaniste telle que la Ligue panafricaine ou Moja me permet d'être à jour et me permet de me remettre moi-même en question intellectuellement parlant, mais aussi également de tester mon engagement dans mes actes, dans les actes qu'on pose, dans les conférences qu'on organise, dans les recherches qu'on fait, dans les plaidoyers qu'on fait. Et voilà, je pense que j'ai répondu à ta question.
Oui, non, mais en fait, pour revenir sur ça, parce que il y a souvent un débat sur, surtout qu'on a vu ça pendant le confinement et avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'artistes qui ont une parole engagée, on va dire, sur beaucoup de choses, sur des mobilisations, sur ce qui se passe, pas que des artistes, on va dire, des célébrités, des personnes connues, des gens du monde de la culture. Et moi, en tant que militante, ce que je vois, je ne pense pas que les artistes ou les personnes individuelles ou les personnes engagées ou les célébrités sont au devant des luttes de mobilisation ou sont ceux qui vont conduire la révolution. Et je pense qu'il y a une question qui est prise à l'envers où les gens ils disent « Ah oui, mais pour certaines luttes, comme par exemple les luttes d'indépendance, les mouvements des droits civiques aux États-Unis, il y avait plein d'artistes. » Et il faut peut-être remettre en contexte, expliquer aux gens, ce ne sont pas les artistes qui ont fait les mouvements, ce sont les mouvements qui ont donné une place aux artistes, et c'est parce que les mouvements étaient forts que les artistes étaient obligés de se prononcer. C'est-à-dire que pendant le mouvement des droits civiques, il y avait ces organisations qui étaient extrêmement fortes, qui portaient quelque chose, et on ne pouvait pas être un artiste noir si on ne se prononçait pas. Donc tu avais deux choix de prononciation. Soit tu disais « Ah non, mais ça ne m'intéresse pas, je vais continuer à jouer dans des trucs ségrégés et à ne pas pouvoir rentrer par les mêmes coulisses que quelqu'un quand je vais dans le Sud. » etc. Ou faire comme Nina Simone ou d'autres personnes en disant oui, ok, comme il y a une organisation, je me sens, même si elle a payé le prix de ça, quand elle a été un peu mise à l'écart, quand plus elle était engagée, mais il y avait toute une organisation qui faisait qu'elle pouvait continuer à avoir une activité et un rayonnement malgré ça. Donc, est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose où on... Il y a un renversement où on pense que des personnes individuelles, parce qu'elles sont connues, parce qu'elles ont une plateforme, parce qu'elles sont des artistes, sont celles qui font les luttes et c'est pas au lieu que ce soit l'inverse. De dire qu'en fait, il y a une différence entre avoir une parole engagée et être militant. Et toi, comment tu vois cette différence? Qu'est-ce que ça fait la différence quand tu as une parole engagée mais que tu réfléchis tout seul dans ta tête, et quand t'es militant avec d'autres personnes où t'es obligé d'avoir des discussions, vous êtes obligé de programmer des choses, etc. Qu'est-ce que le plus que ça apporte d'être à l'intérieur d'une organisation?
Je pense qu'il est important d'être dans une organisation parce qu'il ne faut pas individualiser la lutte. La lutte, elle est collective. Et quand tu pars de ce postulat que la lutte est collective, la lutte ne peut pas être individuelle. Et je pense qu'il faut faire attention aussi pour ne pas individualiser les luttes. Et justement, c'est ce que moi j'aime beaucoup dans la Ligue panafricaine ou Moja. J'aurais pu adhérer à une autre organisation. Pour la petite histoire, moi j'étais là déjà en tant qu'artiste, je faisais mes activités personnelles. J'ai compris à un moment qu'il fallait créer un collectif où au lieu d'avoir un fan club, j'ai pas de fan club, je préfère avoir un collectif où quand les gens venaient me voir pour me dire « Hey l'homme, tu vois ce que tu dis, ça me parle ?» Je dis « Nous avons une organisation qui s'appelle SEMA, qui veut dire unité en ancien égyptien. » C'est comme ça qu'on a créé SEMA. Et au fur et à mesure, j'ai vu en fait que c'était pas la peine de créer des petits groupuscules d'organisation. Il y avait la Ligue panafricaine Umoja qui créait des sections locales. Et j'avais discuté à l'époque avec Hamzat Boukhari, qui est secrétaire général. Je lui ai dit, nous, on aimerait adhérer à la Ligue. On a fait le déplacement vers la Ligue en disant, on aimerait bien être votre section territoriale. Donc, pour répondre à ta question, je pense que la plus-value d'être dans une organisation, c'est que ça permet déjà de ne pas individualiser les luttes, mais aussi de sortir de la mobilisation. Je pense que c'est Stokely Carmichael qui parlait de mobilisation vs organization. Je pense que quand tu es artiste individuel, tu peux mobiliser les gens sur une question donnée. Mais quand tu es dans une organisation, tu permets d'avoir un programme et ça te permet aussi de te dépasser. Parce que moi, en tant que personne, je ne sais pas si demain je me réveille. Je touche du doigt, j'espère que je vais vivre encore longtemps. Mais ce qui est intéressant quand on est dans une organisation, il y a une politique, il y a des valeurs auxquelles on essaie de s'attacher. Et ce sont ces valeurs qui conduisent aussi notre travail. Donc après, je pense qu'il y a un cheminement permanent entre l'artiste qui crée et l'organisation dans laquelle l'artiste est. C'est un va-et-vient permanent qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, je n'écris pas forcément en pensant tout le temps à l'organisation, mais dans mes comportements, dans mes prises de position, je vois s'il y a une adéquation avec la Ligue. Et ça aussi, c'est un baromètre qui me permet aussi de savoir où je vais, de savoir avec quel artiste je peux m'afficher, avec quel artiste je peux faire un featuring, sur quelle scène je veux me produire. Par exemple, moi, j'ai été contacté indirectement par des organisations qui m'ont dit « Hey l'homme, est-ce que tu voulais faire Africa 2020 ?» Tu vois, l'artiste individuel va te dire « Ah, c'est une belle exposition pour moi, tu vois. Je vais peut-être gagner des sous, etc. » Mais est-ce qu'en participant à Africa 2020, qui est organisé par la France, etc., est-ce que c'est dans ma logique, en fait ? Je ne pense pas, en fait. Donc, du coup, c'est ça, c'est ce que je...
Donc, ça permet de mettre des balises sur des choix et permettre d'avoir de faire un pas de côté en disant qu'il y a d'autres baromètres pour choisir si on va quelque part. Et le seul baromètre, ce n'est pas que l'exposition, ce n'est pas que le contrat, c'est qu'il y a d'autres baromètres d'éthique politique. Et pour ceux qui ne savent pas, pour les personnes qui nous écoutent qui ne savent pas, Africa 2020, c'est un projet, ben, je pense que là, c'est un peu tombé à l'eau avec le Covid, hein, à moitié tombé à l'eau. C'était un projet du nouveau néocolonialisme culturel, soft power de la France, qui faisait une programmation culturelle en France, africaine, et africaine surtout, africaine subsaharienne, hein, je sais pas, je pense qu'ils essayaient de redorer leur image du néocolonialisme à la lumière de toutes les manifestations qui ont lieu sur le continent contre l'ingérence française, la présence française, etc. Donc c'est une stratégie de soft power vu que l'OIF, la francophonie, ouais. ne travaille pas assez fort et il fallait quelque chose un peu ouais. de nouveau.
Mrs. Makeba, are people happy in Johannesburg?
That depends on which people you're talking about. When we speak of people in Johannesburg, we have to be specific in that in South Africa there are two separate communities, and that's the white community and the black community. I will speak for my community. I think we are happy, we dance, we sing, because sometimes it's better to laugh to keep from crying.
Mrs. Makeba, you sing your songs in a lot of countries. And obviously, quite obviously, it is not only purely show business. Actually, which is the message you want to give, to transmit to your public, to your listeners?
Well, I always feel that even though one is an artist, that we are first human beings and we live in the same world as any other person, so that we as artists should never close our eyes to what is happening around us. Therefore, coming from South Africa, naturally my life was affected by my environment there. And the songs that I sing are just about my everyday life.
Qu'est-ce que pour toi être quand tu dis activiste, parce qu'on va on va faire un marche en arrière, activiste panafricain, activiste, c'est devenu, enfin, il y a beaucoup de mots comme ça, c'est le néolibéralisme qui fait ça, qui fait qu'il y a beaucoup de mots valises. C'est-à-dire activiste, toi tu dis que t'es activiste, d'autres gens disent qu'ils sont activistes parce qu'ils ont posé à côté d'un ours polaire, etc. Ouais. Donc ça recouvre des réalités aussi vastes que les gens puissent le voir. Donc toi, en dehors du fait d'être dans la lutte panafricaine, dans une organisation, qu'est-ce qui fait pour toi t'es activiste panafricain? Comment tu investis le côté art du mot activiste et l'autre côté tiviste panafricain? Comment tu fais ça dans ta musique, par exemple? On a compris que tu es dans une organisation, mais dans ta musique, comment ça se traduit ?
Dans ma musique, je peux dire, on peut le voir à trois volets. C'est-à-dire la musique, en tant que musique même que je crée, je parle de rythme et harmonie. Ma musique, en termes de paroles, et ma musique aussi en termes d'esthétique. Et quatrièmement, ma musique en termes d'engagement. Je vais commencer par l'engagement. Il y a 10 ans, avec des amis, on a créé le mouvement qui s'appelle Arctivisme. A-R-C-T-I-V-I-S-M. Et Arctivisme, c'était l'engagement sociopolitique par l'art. On a commencé avec Thomas Sankara. C'est un triptyque, projection documentaire, discussion, débat. Et à la fin, on laisse la place aux artistes qui viennent s'exprimer à travers toute forme de musique, toute forme d'art, mais qui est toujours du militantisme sociopolitique au centre. Donc c'est un mouvement qui permet de revisiter l'histoire de l'Afrique à travers ses grands hommes. De 2009 à 2000, à l'année dernière, on a fait 32 chapitres. Le dernier, c'était à Grand Popo, au Bénin, c'est sur Maya Angelou. Le premier, c'était à Lomé, sur Thomas Sankara. On a fait Ouagadougou, on a fait Accra, on a fait Paris, on a fait Cotonou, on a fait des villages au Togo. Et à chaque fois qu'on se déplace dans un pays, dans un village, on essaie de nouer avec des artistes, des groupements qui pensent à peu près comme nous et essayer de créer des liens. Il y a un petit magazine qui s'appelle Asrafozine. Asrafo qui veut dire guerrier en évé ou gardien des traditions, qui est aussi le nom du label. Voilà, donc ma musique, c'est comme ça, je l'exporte. C'est aussi à travers ces événements-là où on se rencontre. Parce que je pense qu'on ne peut pas lutter ensemble si on ne se rencontre pas. Je parle de rencontre physique. On ne peut pas lutter si on fait l'économie de la rencontre physique. Pour moi, c'est très important. Donc c'est comme ça que mon activisme sur scène ou en événement se manifeste comme ça. J'ai parlé de l'esthétique. À chaque fois que je fais des clips vidéo, pour moi c'est important de montrer la beauté de l'Afrique, la beauté déjà de nous hommes, de nous femmes, la beauté de nos tissus, la beauté de notre art, nos bronzes, nos sculptures. C'est très important pour moi dans l'image, en fait, que l'activisme soit là. L'activisme culturel, pour moi, c'est aussi de montrer ce qu'on a beau. Aujourd'hui, on parle de restitution, des objets volés, etc. Je trouve que c'est un très bon combat. Mais pour nous qui vivons sur le continent africain, je pense qu'il est important de mener un travail de préservation du patrimoine qu'on a aujourd'hui. Je ne vais pas citer forcément des marques, mais je ne vais pas forcément mettre des marques occidentales, européennes, américaines, chinoise forcément dans mes clips. Pas que je les rejette, hein, non, mais à chaque fois que moi je vais faire un clip, pour moi c'est important de mettre nos bogolans, nos kente, nos adinkra en avant. Au niveau de la parole, et je pense que c'est pas le moins important, c'est le propos. Qu'est-ce que je dis? Moi je fais du rap. Le rap, c'est composé de beaucoup de lyrics. C'est ce que j'écris dans mes textes, en fait. J'ai fini une interview il y a une semaine avec BBC, où le monsieur me demandait pourquoi je mettais autant de références dans mes chansons. Et moi, je dis, j'ai bien envie de parler au vendeur ambulant dans la rue qui n'a pas forcément le temps matériel de prendre un livre et de le lire, qui n'a pas forcément le temps de prendre un documentaire de le lire parce que quand il rentre, le soir, il est claqué. Mais quand il écoute un morceau que je parle de Marcus Garvey, de France Fanon, de Eugène Mona, de tout ça, en fait, c'est une manière pour moi de parler de panafricanisme. Quand je sample un discours de Kwame Nkrumah sur un morceau, ça, c'est la parole. Et je vais finir avec le rythme et les harmonies. Je pense que pour nous rappeurs qui rappons sur, sur les drums, les batteries, le boom bap, aujourd'hui, au lieu de mettre des snares comme on le fait habituellement, moi, je vais prendre des rythmes de chez nous, le blekete, le agbaja, etc. C'est aussi une manière de panafriquer, aussi panafricaniser ma musique. Et aussi les harmonies. J'ai fait une interview récemment où le monsieur me demandait pourquoi il y a beaucoup de musique éthiopienne sur des saxophones éthiopiens, ou du moins la musique éthiopienne sur mon dernier album. Et je lui ai dit, ce n'est pas de la musique éthiopienne. C'est la musique pentatonique des Évés. Les Évés, eux, ils le chantent dans les morceaux, dans les chants. On n'a pas forcément cette culture de cuivre, de trompette, de saxophone. Mais quand tu prends cette culture axérelle, c'est presque la même chose que ce qui se fait en Éthiopie. Et d'un côté, ça montre aussi l'unité, comme disait Charanta Diop, dans nos cultures. On te dit que les Évés descendent des Égyptiens. On est passé par l'Éthiopie, après par le Nigeria, après on est passé par... et on est arrivé s'installer au Togo, tu vois. Et dans la musique, même qu'on fait dans nos harmonies, le lien, il est clair, il est là, il est évident. Donc oui, ma réponse est un peu longue, mais je pense que c'était intéressant d'expliquer comment, en tant qu'artiste, je panafricanise mon art. Parce que mon activisme, il est très, très, très panafricain.
Ah, très, très intéressant comme réponse, mais très structuré, donc on ne s'est pas perdu. La révolution panafricaine, tu penses que c'est possible ?
Moi, je pense qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans. Au départ, tu parlais du capitalisme. Que nous subissons aujourd'hui parce qu'en gros, on est encore sur des territoires où on laisse, il faut le dire, hein, on laisse. Parce qu'il ne faut pas tout le temps être là et critiquer les autres. Il faut qu'on ait, surtout quand on est entre nous, tu vois, de pouvoir faire nos autocritiques en fait. On laisse encore l'hégémonie culturelle à la France, à l'Allemagne, à travers les instituts français, les Goethe-Institut, et que parfois, nous, en tant qu'artistes, on est obligé de faire avec. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont invisibilisés parce que justement, ils n'ont pas ces créneaux d'exposition. Mais je pense qu'actuellement, quelque chose se passe où beaucoup de gens font un retour vers les racines. Et je pense que cette BO est en train de s'écrire. Moi, je connais un artiste béninois qui s'appelle Kamal Radi. Je connais One Love Kubola qui est au Ghana. Voilà, je ne vais pas citer Burna Boy parce que lui, il a une grande exposition. Je parle de ceux qui n'ont pas forcément de grandes expositions. Mais cette BO, elle est là. Et cette BO aussi, pour moi, ce n'est pas forcément ceux qui sont dans les zones urbaines. Les zones rurales, c'est pas pour rien que mon dernier documentaire, Le silence est un cri, j'ai voulu prendre la parole, donner la parole à ces femmes paysannes. Parce que même quand on parle de féminisme aujourd'hui, excuse-moi, je le pousse jusque là-bas, est-ce qu'on prend en compte juste ceux qui sont dans les zones rurales, urbaines? Est-ce qu'on donne la parole aux gens, aux femmes qui sont dans les zones rurales, etc. Et pour revenir à la question de la BO, je pense que la BO va être composée ou est en train d'être composée par tous ces artistes urbains qui sont invisibilisés justement parce qu'ils chantent la révolution, ils chantent des choses que les grandes radios, les grandes majors ne veulent pas mettre en avant. Tu vois, on préfère des rappeurs qui te parlent de qui déshabillent la femme, qui parlent de drogue, qui parlent de sexe, que de donner la parole à d'autres artistes qui disent des choses importantes, mais également toutes ces personnes qui sont encore dans nos villages, qui ne sont pas en ville, tu vois, parce que le terme village encore, c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Chez nous, on dit Kopé en Mina qui veut dire, en Évé qui veut dire le quartier général, tu vois. Donc le terme village, encore un truc très colonial de dire village et ville, qui préserve la culture et qui la modernise à leur manière. Et pour finir, par rapport à cette question-là, moi actuellement, je suis en train de me battre pour rassembler quelques jeunes africains pour sortir une mixtape à la fin de l'année. J'espère que je vais y arriver. Ou je veux donner la parole aux jeunes qui sont nés dans les années 90 et 2000 pour donner leur rêve sur l'Afrique 60 ans après. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de documentaires qui sortent sur les indépendances, sur la décolonisation, etc. Et encore là, la parole est donnée aux gens en Europe. Je pense qu'hier encore, il y a un film qui est sorti sur France 2.
C'est une aberration, et surtout avec les mêmes gens, le même Pascal Blanchard, des gens qui ont une industrie. L'industrie ils ont créé une industrie universitaire, marketing sur ça, vraiment dans le pillage, etc. C'est vraiment, c'est un scandale. Un scandale.
Mais c'est pour ça, moi qui suis en Afrique, là, tu vois, je ne suis pas à New York, je ne suis pas à Paris, je suis à Lomé, tu vois. Qu'est-ce que le jeune que je sors dans la rue pense de ça? Pour moi, c'est important d'avoir cette parole-là, tu vois. Et ça, la BO là dont on est en train de parler, la BO là, pour moi, c'est ça aussi. C'est de donner la parole à ces jeunes artistes qui nous disent qu'ils pensent ces choses-là. Parce qu'on n'a pas forcément le luxe de voir France 24, on n'a pas forcément le luxe de télécharger un documentaire de François Blanchard ou je ne sais pas. Mais en même temps aussi, c'est les seules ressources à notre disposition qui nous permettent de nous documenter sur nous-mêmes, sur notre histoire. Parce que nous-mêmes, on a failli. Donc pour moi, la BO, et je vais finir avec ça, c'est de sauvegarder, c'est de récolter, d'archiver ce présent-là. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Archiver le présent des jeunes, des gens ici, qui sont encore là, des gens qui ont lutté pour les indépendances. J'ai fait une série d'interviews avec un monsieur qui s'appelle Godwin Tété, un monsieur qui a 90 ans cette année, qui nous parlait de comment ils ont lutté. Et on ne doit pas forcément laisser les Pascal Blanchard ou les François Blanchard, je ne sais pas comment ils s'appellent, désolé.
C'est pas important. Et juste à la fin, tu sais qu'il s'appelle Blanchard. Son nom de famille, c'est Blanchard. C'est ça le plus important.
C'est ça. Et moi, je n'ai pas envie de les critiquer. Ils font ce qu'ils font pour leur industrie. C'est aussi à nous, aujourd'hui, de donner la parole à nos gens. Et c'est ça, pour moi, la bande originale de ce panafricaniste du 21e siècle.
Ok, bah, est-ce que tu pourrais nous donner 4 titres de cette BO?
Waouh, 4 titres de cette BO. Bon, je pense que je pense que je vais faire ma promotion, tu vois. Je vais faire ma auto-promotion.
Do you?
Parce que j'ai pas réfléchi, tu vois. Je pense qu'il y a un morceau sur mon album Indigo qui s'appelle Africa is the Present, tu vois, un album qui a été réalisé en 2015, je crois. Africa is the Present, tu vois. L'Afrique est un présent, l'Afrique c'est le présent et l'Afrique est un cadeau. Il y a sur mon dernier album un morceau qui s'appelle Umojani Nguvu, l'union fait la force, qui est le motto de la Ligue panafricaine Umoja. Je vais essayer de pas.
Et c'est aussi la devise de la République d'Haïti.
C'est ça. Tu vois, je savais pas ça. Bah, c'est bien.
L'union fait la force, c'est la devise d'Haïti.
Super, il y a ça. Après, je suis en train de m'efforcer pour parler d'autres morceaux. Wow, c'est chaud. Bon, je pense qu'il y a Kamal Radi, un jeune béninois qui a fait un morceau qui s'appelle Allume ton cerveau, qui a beaucoup tourné à l'époque. Et il faut que je trouve au moins un morceau en anglais. Je suis en train de réfléchir. Ouh là là, c'est chaud. Ouh là là, c'est chaud. Bon, je dirais Ameuga. Ameuga, c'est le titre le titre de l'album que j'ai sorti récemment. Et Ameuga, parce que ça parle de l'être humain au centre de tout. C'est un morceau qui parle de l'esclavage encore et qui parle d'autres formes d'esclavage moderne, comment nos systèmes de santé sont obsolètes, sont pas efficients. Et oui, justement, on ne peut pas parler de panafricanisme si on n'est pas capable de se soigner comme il faut. Donc oui, je dirais, je donnais 3 morceaux de Elam Vince et un morceau de Kamal Radi. Je ne me suis pas préparé, j'aurais dû me préparer pour citer les autres. Donc les autres gars, les sœurs, ne vous en voulez pas si je n'ai pas parlé de vous. Peut-être qu'après, ça me reviendra, tu vois.
Voilà. Ok, et pour le dernier, par exemple, Ameunga, que tu dis, est-ce qu'on peut avoir un couplet pour voir à quoi ça ressemble?
Non, je pense que je vais être généreux, je ne vais pas donner Ameuga, je vais faire autre chose en fait. Tu vois? Comme ça, les gens iront écouter Ameuga. Il y a un morceau sur mon album qui s'appelle Point d'interrogation, que j'aime beaucoup. Point d'interrogation avec P-O-I-N-G-S, tu vois, des points d'interrogation. Je suis en train de réfléchir si je fais le premier couplet ou le deuxième. Tu me dis le premier ou le deuxième selon toi, puis je choisis.
Deuxième,
ok. Coller nos tripes sur vos murs, nos tombes dans vos bouches. Attends, j'oublie mon propre test, c'est chaud.
c'est le stress.
Ouais, bon, bref, je vois. Asso makba asso gbonne la tidia dine fanamie bonom pona sikwe o kan le mouvon no voade mi so jo asso sana voyo mi so savona fionfio kudo so jao surfing and smiling. Me bada nyo kwade, me enami le guerre. O Jesse Christania, que sais-tu de Tsubukwe? Que reste-t-il des braises rouges qui chantaient hier? Ces cendres dociles que soulève la poussière, ou ces points en érection qui dansent au-dessus de ma tête? Un arbre sans racine est un cure-dent, mais qui finance nos luttes? Un sage Madian Wolof, que c'est celui qui te prête les yeux, qui te dit où tu regardes? Un fusil dans la main, un poème dans la poche, tu connais l'option, elle est révolutionnaire. Solidaire de Bondonga la Havane, Nkuntowe, Sizoué. Mandela a pris le maniement des armes dans les camps du FLN. Quand la parole est amputée, les membres se déchaînent. À la base, Boko Haram était un club de jeunes. Nous pouvons les dia, nous pouvons pour les begena, nous pouvons les dia, nous pouvons pour les begena, nous pouvons les dia, nous pouvons pour les begena, chichok bonabe, agbonila mi doit qu'on leur, nous pouvons les dia, nous pouvons pour les begena, nous pouvons les dia, nous pouvons pour les begena, nous pouvons les dia, nous pouvons pour les begena, coclom janagno, atien bedona, collez nos murs, collez nos tripes sur vos murs. De tombe dans vos bouches, couchez nos langues sous vos bottes ou vous jetez un sort. Qui veut nous diendérer, qui peut nous comparer? N'est-ce pas au cœur du désert que se trouve son oasis? Tchale l'enlève na wado la roma non a leone mno gunpowder. Azia, ola inali amito cleva, minokie, azing banakpo. Un œuf ne casse pas une pierre. C'est seulement quand le nombre de cadavres de l'oppresseur est grand qu'il commence à écouter, disait Cabral. Les ombres persistent, communiquent entre eux, aiguisent des cris derrière les paupières ouvertes ou closes. Boum, donne-moi une bombe que je fasse comme ou Mazou nous dira tous le ras-le-bol sont des tours au camp. Je marchais seul dans les rues de Dakar, escorté par des anges ivres, des regards vides, le fatalisme en personne. C'est là que j'ai réaperçu Cher Antar, me rappelant qu'un continent qui ne peut se défendre, ni ne contrôle son espace géographique, ne peut être indépendant. Finalement, j'ai fait les deux couplets, tu vois.
Merci d'avoir été avec voilà. nous aujourd'hui. Merci pour ce cadeau de fin. Aujourd'hui, dans l'espace du Black Atlantic, on était à Brooklyn et à Lomé, grâce aux internets. On te souhaite beaucoup de bonnes choses pour tous ces projets.
Merci à toi pour l'invitation.
Ce podcast est disponible sur toutes vos plateformes. Vous me retrouvez sur Twitter, Fania Makaya, et sur Instagram, Fania_Noël. Kizu Studio est un projet militant, poétique et bénévole. Vous pouvez le soutenir sur kizustudio.org ou proposer vos idées de podcast. Je vous retrouve le mois prochain, toujours en bonne compagnie. En attendant, portez-vous bien où que vous soyez.